Les informations de Mireille Boukassa.
Grave accident de train entre Ilebo et Kananga au Kassai occidental. Plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés. Nous aurons les détails dans ce journal. Évasion à la prison centrale d'Uvira. Une centaine de prisonniers se sont évadés hier soir. Quelques heures avant l'évasion, ces prisonniers se plaignaient des conditions de vie précaires dans la prison. Les démolitions des constructions en RDC suscitent plusieurs interrogations dans la population. Radio Kapi a mené une enquête sur les différentes procédures à suivre. Les résultats dans ce journal avec Nazar Coco. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cet accident mortel du train de la SNCC qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Kakenge, au Kassai occidental. Les bilans divergent selon les sources, mais ils sont tous très lourds. Une soixantaine de morts et plus de 120 blessés graves selon des organismes sur place. Une centaine de morts selon le ministre de l'Information. Les rescapés de l'accident sont transportés soit par vélo, soit à pied vers le premier hôpital qui se trouve à 12 km du lieu de l'accident. Un reportage de Pierrot.
À l'arrivée de la délégation conjointe, la surprise était entière. Les corps éparpillés dans tous les sens. Les blessés transportés avec les moyens de bord, comme les vélos ou encore sur les épaules. Il faut marcher à pied pour atteindre le premier hôpital de Kakenye qui est à 12 km du lieu de l'accident. L'accident lui-même a eu lieu en Dengamongo. D'autres corps se trouvent encore sur les wagons couchés. On attend toujours une grue de la SNCC pour soulever les wagons surchargés des marchandises. Témoignage de Louis Bouchapou de l'ONG La Voix des Sans Bouche.
L'accident est en tout cas très grave. Nous lançons appel aux ONG pour prendre des interventions. Sinon, il y a beaucoup de blessés, à peu près 100 blessés, 68 morts. Il y a encore d'autres corps qui sont en dessous des wagons. Il n'y a pas moyen de les faire évacuer. Nous avons interpellé quand même des gens pour qu'on puisse faire des efforts pour les faire évacuer. On a travaillé en vain.
L'accident est survenu dans les environs de 23h dans la nuit de mercredi. Depuis lors, les rescapés ont été sans secours. Un rescapé de l'accident explique que le calvaire est dû à l'excès de vitesse du train de la SNCC. Il ajoute que le train allait plus vite. La délégation sous la conduite de la MONU et des autorités provinciales a commencé le premier soin aux rescapés. Aux dernières nouvelles, un communiqué du ministre de l'Information révise le nombre de morts à une centaine et plusieurs dizaines de blessés. Informé, le chef de l'État Joseph Kabila et le Premier ministre ont envoyé sur place une commission composée des ministres de l'Intérieur, de la Santé, du Transport et des Affaires Humanitaires. Une commission d'enquête a été mise sur pied par le ministre des Transports. De Kananga, Pierrot Elameji, Radio Kapi.
Mort d'homme également, mais cette fois-ci, la cause est une peste pulmonaire qui fait rage à Ngoté, localité située à environ 180 km au nord de Bunia, en Ituri. Pour la seule journée d'hier, 10 personnes sont mortes sur 12 cas enregistrés. Selon le médecin du district sanitaire d'Arou, cette situation n'est qu'une évolution de la peste bubonique qui sévit dans la région depuis plus de 2 mois. Isaac Remoyope nous en parle.
Les zones de santé les plus affectées sont celles des Louga et des Logo en territoire des Mahagi. Sur les 10 personnes qui en sont décédées hier, 10 parmi elles vivaient dans l'aire de santé des Ngoté et 2 dans l'aire de santé des Louga. Selon les médecins des districts sanitaires d'Arou, des nouveaux cas de personnes affectées continuent à être enregistrés. Léonard Lopaï nous révèle ce qui est à la base de cette épidémie.
Il y a plus de 2 mois que ces 2 zones de santé ont noté beaucoup de cas de peste pulmonaire. Alors, les cas de peste pulmonaire, c'est une évolution logique de la peste bubonique. Donc, une fois elle traverse la barrière des ganglions qui se trouve même au niveau des poumons, elle rentre dans le bronchiol, ça fait la peste pulmonaire.
Selon la même source, l'ONG internationale maltaisère a fourni depuis hier en Ngoté les premiers lots de médicaments qui doivent servir à soigner les malades afin d'arrêter la propagation de l'épidémie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kinshasa, c'est un ressortissant belge qui a été assassiné ce matin. Il s'agit de Michel Hans, 56 ans, marié à une Congolaise et père de 4 enfants. Michel Hans était directeur financier d'une société de construction dénommée Number One. La victime a été tuée à 8h30 chez une de ses amies dans un quartier aux environs du camp Kokolo. 2 de ses 3 présumés agresseurs sont aux arrêts à la cour militaire. Un militaire qui a hérité l'un des présumés auteurs de cet assassinat témoigne au micro de Jeff Ngoy.
C'est moi qui ai arrêté le présumé assassin. D'autres collègues étaient en train de le chercher. Et pendant ce temps, je travaillais pour ma maison. J'ai vu quelqu'un tomber du haut de la couture. Il transpirait fort. Je l'ai interrogé et il m'a dit qu'il a été envoyé. Je l'ai arrêté soi-disant que c'est lui qui venait de commettre le crime. Tout à coup, les éléments de l'auditorat militaire sont survenus et l'ont amené ici à la haute cour. Il s'appelle Congolo en Congolo, déserteur de l'armée. Ces gens qui érigent des maisons autour du camp hébergent des malfaiteurs.
Et puis ce communiqué conjoint MONUC Fondation Hirondelle après l'agression d'un journaliste de Radio Kapi dimanche à Bounia. Les deux organisations dénoncent les nombreux actes de violence et de menaces ayant pris pour cible plusieurs autres journalistes de Radio Kapi et d'autres médias de la RDC au cours de ces dernières semaines. Pour elles, ces agressions sont contre la sécurité des journalistes et portent atteinte à leur intégrité physique. Toujours dans le même communiqué, la MONUC et la Fondation Hirondelle demandent instamment aux autorités civiles et judiciaires congolaise de tout mettre en œuvre afin que tous les journalistes puissent travailler sans crainte dans les meilleures conditions de sécurité. Ces deux organisations demandent au gouvernement de rechercher et punir tous les coupables d'exactions, quels qu'ils soient. Une centaine des prisonniers, parmi lesquels des condamnés militaires et civils, se sont évadés hier soir de la prison centrale d'Uvira. Hier matin, ils s'étaient révoltés contre le directeur de la prison, à qui ils avaient donné un ultimatum au cas où leurs revendications ne seraient pas prises en compte. Selon le directeur de la prison centrale d'Uvira, le manque de nourriture depuis une semaine, ainsi que l'insuffisance et la faiblesse de la garde, sont à l'origine de cette évasion massive. Une arme parmi les deux emportée par ces prisonniers a été récupérée, et 5 des fugitifs sont détenus au cachot de la police nationale, Sistongoma.
L'incident s'est produit vers 17h30 lorsque le directeur de la prison a donné l'ordre de faire entrer tous les prisonniers dans la cour intérieure pour l'appel nominal. Les policiers avaient reçu l'ordre de tirer en l'air pour effrayer tout mouvement suspect. Selon le directeur de la prison, le surveillant a réussi à échapper aux prisonniers lorsque ces derniers voulaient le prendre de force. Ils se sont enfuis en masse après avoir cassé la porte. Les policiers des gardes paniqués n'ont pas osé tirer en l'air. 2 armes de ces policiers ont été emportées, mais l'une a été retrouvée ce matin jetée à l'intérieur de la cour de la prison. Tandis que les 2 policiers sont aux arrêts. Hier, depuis le matin, certains condamnés militaires et civils réclamaient leur transfert à la prison centrale de Bukavu, où ils disaient pouvoir trouver à manger. L'autorité du territoire avait apporté 50 kg de farine de maïs et 25 kg de haricots, une quantité que les détenus ont jugée insignifiante. 114 prisonniers se sont évadés parmi les 155 que comptait la prison. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée pour la prise en charge en nourriture du reste des pensionnaires. D'Uvira, Fistongoma Mayaba, la Radio Kapi.
Pour la première fois en 3 ans, le tribunal de grande instance des Gbadolité à l'Équateur peut maintenant siéger en matière pénale. Ceci après l'arrivée le week-end dernier d'un juge qui vient d'être affecté à cette juridiction par le ministère de la Justice. L'autorité locale, débordée par des cas de viol, de vol et d'insécurité, se dit soulagée. Il reste cependant à résoudre le problème de prison pour garder les malfaiteurs. Dominique Colombi.
C'est depuis 3 ans que le tribunal de grande instance de Gbadolité ne siégeait pas pour insuffisance des juges. On attendait des juges et un magistrat du parquet. Un seul juge est arrivé à bord d'un avion de la MONUC. Les autres magistrats, faute de moyens pour les titres de voyage, sont attendus. Mais selon Emmanuel Bikakala, procureur de la République près le parquet de Gbadolité, avec 2 juges et un magistrat assumé, le tribunal de grande instance peut désormais siéger en matière pénale, c'est-à-dire pour juger plus de 500 dossiers, notamment sur des affaires de viol, des cas d'assassinat, des meurtres et des vols à main armée. Le parquet de Gbadolité a dû accorder des autorisations de liberté provisoire à certains prévenus après de longues détention en prison. Maintenant, il va falloir les convoquer de nouveau. Les maires de Gbadolité se disent soulagés, car estiment-ils, les voleurs à main armée et d'autres malfaiteurs, maintes fois arrêtés par la police, qui circulent librement après un court séjour en prison, vont être jugés et condamnés. Cependant, l'état actuel de la prison de Gbadolité n'offre pas de garanties de garder les condamnés. Le procureur de la République, Emmanuel Bikakala, compte transférer les futurs condamnés à la prison de Businga, à 140 km au sud de Gbadolité, où les conditions de détention carcérale semblent quelque peu réunies. De Gbadolité, Dominique Wolombi Mungapangi, Radio Okapi.
2 bateaux transporteurs de bois au port de Bandunduville saisis depuis une semaine. Cette confiscation entre dans le cadre de la lutte contre l'exploitation forestière illégale, une opération menée par le ministre provincial de l'Agriculture. Bandundu doit bénéficier de ses ressources naturelles pour sa reconstruction, a-t-il déclaré. Ces bateaux transportent aussi une centaine des passagers vivant dans des conditions très difficiles. Basile Bakoumbani nous en parle.
Il s'agit du bateau MB Joas en provenance de Douma avec à son bord 160 plumes. Ce bateau reste bloqué au port depuis 8 jours faute de documents légaux d'exploitation forestière. Le ministre provincial de l'Environnement, Koko Pembe, qui a saisi ce bateau, dit avoir lancé l'opération pour arrêter la fuite des ressources provinciales. D'après lui, plusieurs sociétés indiennes opèrent dans le domaine de la forêt à Bandundu illégalement, d'où son opération qui va s'étendre sur toute la province de Bandundu. Il ne comprend pas trop comment une cargaison estimée à 550 000 dollars américains puisse sortir de la province en y laissant que 160 000 francs congolais. Pas plus tard que ce matin, un autre bateau du nom de MB Santa Maria vient également d'être intercepté avec une cargaison importante. Pour l'instant, ce sont les centaines de passagers à bord de ce bateau qui en pâtissent. Mais le ministre reste catégorique, aucun bateau ne partira sans régulariser avec la province. Nos efforts pour atteindre la société concernée ont été vains. Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Les démolitions de certaines constructions à Kinshasa par l'hôtel de ville s'accompagnent de plaintes de leurs propriétaires. Certains d'ailleurs ont traduit l'hôtel de ville en justice. Ils disent disposer des documents officiels leur délivrés par des services concernés, c'est-à-dire par la division urbaine de l'urbanisme et habitat, ainsi que les affaires foncières des deux services de la gestion des concessions des titres immobiliers. Une question se pose cependant, sur terrain, comment se passe l'acquisition de ces documents? Des éléments des réponses avec notre confrère Nazer.
Selon la loi foncière, la division de l'urbanisme et habitat établit en premier ressort, après la demande du client, un avis urbanistique en rapport avec le plan d'aménagement de la ville. C'est normalement après cet avis que le deuxième service, les affaires foncières, se charge de délivrer des documents indiqués après avoir vérifié de la conformité du terrain à la loi. Parmi les documents indiqués, le contrat de location, le certificat d'enregistrement, l'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir pour les grands édifices est accordé par le ministre des tutelles. Par contre, pour les petits édifices, c'est le gouverneur de la ville qui l'accorde. Cependant, des sources internes des deux services au niveau du district de la Founa indiquent que des documents sont émis par ces services compétents, même sur des terrains litigieux, publics et privés. À l'origine de cette attitude, ces sources citent les jugements iniques rendus en catimini par certains cours et tribunaux et qui doivent être appliqués, l'incapacité des deux services d'appliquer la loi à cause du pouvoir d'achat du client, et aussi des pressions politiques, notamment des membres des différents gouvernements congolais. À ce tableau déjà sombre s'ajoutent toujours, selon ces mêmes sources, des faux documents émis par des réseaux parallèles. Pour mettre fin à ces différentes pratiques, plusieurs experts du domaine proposent la tenue des états généraux des affaires foncières et même la révision de la loi foncière jugée caduque.
Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a justifié la démolition de ces constructions par le fait que, selon lui, les documents détenus par les plaignants ont violé la loi foncière. Pour Laurent Simon Kitengue, le principe de la continuité de l'État ne peut pas être appliqué pour ces cas-ci. Simon Kitengue en donne les raisons, il est interrogé par Nazaire Koko.
Dans le cas d'espèce, ces gens-là ont des papiers, c'est ce qu'ils vous disent. Mais je vous dis que ces papiers ne sont pas des papiers légaux, parce que pour l'acquisition des parcelles, il y a une procédure. Et la procédure n'a pas été respectée. Une ville se construit sur base du plan d'aménagement. Il n'y a pas un plan approuvé par le ministère. Il n'y a pas un arrêté de lotissement pour ces sites. Je n'ai pas encore vu ça.
Ces gens ont versé de l'argent et perçu par les services de l'État.
Les secrétaires généraux ou les conservateurs qui étaient dans les coups, ils n'étaient pas à leur premier coup. J'affirme avec force que les agents ont agi dans l'irrégularité, moyennant des pratiques obscures que vous connaissez.
La population s'est fait donc escroquer.
Quelle population? Le propriétaire de ces concessions-là savait qu'ils étaient en train de tricher. Et vous savez qui était? Pas la population, c'était des grands dirigeants de l'époque, ou même d'aujourd'hui. Moi, j'ai la liste de tous les concessionnaires là, qui ont trempé. Je dis pas qu'on va arrêter, parce que on met la main. Quelques-uns sont déjà en prison pour ça.
Et sur le plan juridique, la loi foncière de 1973 dit que la démolition par l'État des constructions privées obtenues en bonne et due forme s'accompagne d'une réparation pour préjudice subi par les propriétaires, mais il n'en est pas ainsi pour des concessions acquises en violation de la loi. C'est ce que dit maître Dominique Camondo de l'ONG Avocats sans frontières.
Lorsqu'il s'agit des titres obtenus en violation de la loi sur la partie, en violation des dispositions urbanistiques, les biens et régimes fonciers et immobiliers précisent que les titres obtenus en violation de la loi et en violation des dispositions urbanistiques sont nuls. Dans ce cas, ces personnes ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque réparation parce que titre nul ne produit aucun effet en droit. Alors, je vais donner un exemple pour lui. Le sol est divisé en domaine public et en domaine privé. Lorsqu'une personne acquiert une parcelle de terre sur le domaine public de l'État, or, nous savons que le domaine public de l'État est hors commerce, il ne peut être cédé, et qu'il arrive à obtenir un titre sur le domaine public de l'État, il s'agit aussi d'un titre obtenu en violation de la loi.
Maître Dominique Amondo répondait à Nazan Coco.